tous les podcasts Détroit 8, radiogrenouille.com.
De Cazuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
La première chose que je peux vous dire.
Entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan.
Camille Dechenet.
Célio Payard.
Samuel Leader.
La première chose que je peux vous dire, c'est que je suis heureux d'être là, même si je ne sais pas où je suis, ou plutôt parce que je ne sais pas où je suis. Alors je n'ai pas besoin de me poser de questions, ni même de penser, ça fait du bien. Il suffit de regarder autour de soi, il y a tellement de choses qui se passent ici. Ça me rappelle tant d'histoires et ça en appelle tant de nouvelles.
La première chose que je peux vous dire, c'est de ne pas vous effrayer. Il faut parfois du temps avant de voir. Le temps de laisser son regard s'habituer au noir. Il fait nuit à l'observatoire, silence. Puis on ressent comme une lueur au fond de l'estomac, derrière le thorax, sous les pieds, c'est là. Ça grandit de jour en jour, ça s'éloigne de la tour et ça se voit de mieux en mieux. Et un jour, un matin, miraculeusement, on se réveille et s'est assis à côté de nous. Ce matin-là, surtout, ne vous effrayez pas non plus.
La première chose que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas de réponse à cette question. Bonjour, bienvenue à vous trois. Alors, vous n'êtes pas tout à fait trois dans le studio, puisque nous avons une voix un peu distante. Vous l'avez peut-être déjà entendue, c'est celle de Samuel Leader, que je vais d'ailleurs en partie interpréter durant cette émission. Samuel Leader est à Londres et on se parle par téléphone. On va l'entendre quand même tout à l'heure en direct. Sinon, on a entendu pour cette introduction Célio Payard, puis Camille Dechenet. Bienvenue à tous les deux.
Merci.
Voilà, vous êtes actuellement en résidence d'écriture numérique à La Marelle, puisque vous êtes les lauréats de l'appel à projet annuel que nous organisons avec Alphabetville, le soutien de la DRAC-PACA et en partenariat avec le Centre régional des lettres de Midi-Pyrénées pour un projet d'écriture numérique. Et c'est vous qui avez été sélectionné avec ce projet, l'Observatoire, dont on va parler. Alors, juste un petit mot pour dire qui vous êtes, mais ça va donner aussi une idée de ce qu'est ce projet. Camille, tu viens des métiers de l'image et du cinéma. Tu as réalisé plusieurs courts-métrages, documentaires et fictions. Tu te diriges peut-être davantage aujourd'hui vers un croisement écriture et image, parce que la littérature est aussi une de tes passions. On l'a déjà entendu dans quelques discussions qu'on a eues ensemble. Donc on va voir comment ça s'intègre dans ce projet. Célio, tu as réalisé des performances, des installations sonores, participé à des projets d'écriture collective. Le collectif, c'est très important dans ce projet, en particulier les mondes de l'eau et les mondes de Mitra. Tu manipules le texte, son et autres matériaux plastiques. Tu enseignes aussi, tu es chercheur à l'université à propos des arts sonores et numériques et un tas d'autres choses. On réduit un petit peu ta biographie pour qu'on puisse faire cette émission jusqu'au bout. Et Samuel vit et travaille dans le sud de l'Angleterre où il a passé son enfance. Il a enseigné Il enseigne la littérature, l'écriture et les arts plastiques dans plusieurs universités. Et il est auteur, mais en quelque sorte, vous êtes tous les trois auteurs. Et j'ai peut-être envie de commencer avec ça, avant de parler du projet, sur cette notion d'écriture et d'auteur. Comment est-ce que vous sentez finalement, vous-même, comment vous appréhendez cette notion d'auteur? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans des projets comme ça, d'écriture collective et numérique? C'est Léo.
Ouais, c'est marrant parce qu'hier, en sortant de la soirée de performance et de lecture à Montevideo.
Alors hier, c'était le mercredi 22 février. On le dit parce que ça va être rediffusé après.
Tout à fait. Voilà. Donc on était là avec Camille et puis on parlait un petit peu de savoir qu'est-ce qu'on faisait et quel était notre statut et comment on pouvait se définir sans avoir à sortir des listes de mots et d'activités. Et je trouve qu'auteur, c'est pas mal, comme ça résume tout, quoi. On peut être auteur, et faire du cinéma, faire des arts plastiques, des performances, écrire et c'est bien, quoi. Et ouais. C'est aussi Alors, je vais faire un peu mon universitaire, mais ça me fait penser à Barthes, il parle du texte comme de l'œuvre en général, quoi. Le texte, c'est l'œuvre, et on fait des œuvres, quoi. On est auteur.
Camille, quand je dis que l'écrit croise de plus en plus l'image, pour toi, ça veut dire quoi? Parce que ce que je le dis, c'est ce qui est noté dans ta biographie, donc c'est toi qui dois le dire quelque part.
Oui, parce que moi, je fais des films, et c'est vers là que je m'oriente. Mais c'est sûr que le texte a une espèce de lieu d'expérience pour ensuite créer de la matière d'image ou dans le texte. Là, dans le projet qu'on fait, par exemple, il y a des photos.
Oui. Alors, il n'y a pas que des photos. Alors, on va parler un tout petit peu de ce projet. Je vais peut-être dire comment va se dérouler cette émission qui va être constituée de pas mal de matériaux sonores divers qu'on va commenter, mais qu'on va peut-être aussi laisser s'installer d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Et peut-être qu'il y aura un peu moins de discussions que d'habitude, un peu moins d'interventions sur... à partir du questionnaire que vous avez rempli pour cette revue papier et radiophonique qu'on coproduit avec Radio Grenouille. Mais quand même, un petit mot sur ce projet, l'Observatoire. Et puis on va entendre tout de suite après une évocation de ce travail, justement une performance qui a été donnée à Montevideo le 22 février, dans une lecture croisée avec Nicolas Tardy. Alors, un petit mot sur... cette réponse à l'appel à projet, comment vous avez perçu ça et comment vous l'avez travaillé, l'Observatoire.
Alors, toujours difficile de résumer en peu de mots, surtout qu'on est en début de résidence, donc il y a un certain nombre de choses qui sont encore en cours de réflexion, puisqu'on est dans une approche collective, et qu'effectivement c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, et travailler en collectif... c'est vraiment un mode particulier où il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'essais, de tâtonnements, et on va quelque part vers une direction qu'on maîtrise pas, et ça fait partie de l'expérimentation, quoi, d'essayer d'inventer quelque chose ensemble et aussi d'inventer nos manières de travailler ensemble. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de bosser ensemble, mais on n'avait pas eu l'occasion de le faire, et c'est pour ça que aussi c'est super, on est très heureux d'être là.
Vous expérimentez du coup le fait de travailler à trois.
Ouais, on peut pas enlever dans l'idée du travail collectif, on peut pas enlever le fait de, enfin les rapports de travail entre nous, et ça doit faire partie de l'œuvre, et quelque part ça va en faire partie, quoi.
Camille, le fait de travailler en collectif, pour toi ça représente quoi? Et puis du coup cet aspect multimédia aussi de l'œuvre que tu as déjà évoqué.
Ben moi j'ai plutôt l'habitude en fait de travailler en collectif parce que quand on écrit un scénario, il y a toujours des gens qui interviennent, tout ça.
Oui.
Du coup,
oui, il faut parler devant le micro, c'est mieux.
Du coup, pour moi, il y a une espèce de logique à tout le temps faire vivre ce qu'on est en train de faire, qui est peut-être pour l'instant pas grand-chose, mais qui va se développer. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté quand Samuel était là.
Oui, parce qu'il est là de temps en temps quand même. Là, il est à Londres, mais bon, il vient quand même à Marseille. Et pour le multimédia, après, on va écouter un extrait de cette performance. Non. L'image, le son, la vidéo, le texte, tout ça va s'entremêler dans ce projet.
Ouais, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais comme donc tu nous as présenté tout à l'heure, et on a tous les trois des parcours assez variés, assez éclectiques, même si on se reconnaît bien dans l'idée d'auteur. Et donc Camille aussi réalise des films, travaille sur l'image, prend des photos... moi je bosse pas mal aussi avec le son. Samuel farfouille sur internet, pas ses journées à farfouiller sur internet. Enfin, en tout cas ça nous intéresse, et c'est aussi la particularité de faire de la littérature pour numérique ou pour écran, c'est de pouvoir intégrer d'autres médias que le texte, même si le texte en soi va être le plus important, mais qu'il y a aussi des parties de ce qu'on raconte qui va être pris en charge directement par d'autres médias.
Ok. Alors le point de départ de l'Observatoire, et puis on va écouter cette performance qui a été donnée le 22 février à Montevideo, à Marseille.
Le point de départ de l'Observatoire, c'est on est là, on est dehors, on regarde ce qui se passe, on s'invente des histoires, on pense à sa vie, on se demande ce qui va se passer plus tard, quoi. Et là, on était allé à côté de Super Rouvière à Marseille. On vous invite à le voir. Il y avait une tour, tout là-haut, que Samuel avait vu de sa chambre d'hôpital. Et on commence à imaginer des choses.
Des prix et des marges.
École et observatoire des sciences de la Terre Strasbourg.
Observatoire national des zones urbaines sensibles.
Observatoire Midi Pyrénées.
Observatoire de l'environnement Poitou-Charentes.
Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand.
Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement.
Observatoire volcanologique de l'IPGP.
Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble.
Observatoire de la consommation des espaces agricoles.
The Vatican Observatory.
Grand observatoire de l'environnement du Pacifique Sud.
Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble.
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.
Observatoire astronomique de Lyon.
Observatoire national des métiers et emplois de l'économie verte.
Observatoire de Bordeaux.
Observatoire national interministériel de sécurité routière.
Observatoire de Haute-Provence.
Observatoire national des métiers de l'animation du sport.
Observatoire de Besançon.
Observatoire de la diversité audiovisuelle.
Observatoire astronomique de Strasbourg.
Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Observatoire de la Côte d'Azur.
Observatoire du risque d'inondation dans le Gard.
Observatoire de Marseille.
Observatoire national de la lecture.
Observatoire de Nancy.
Observatoire du fabriqué en France.
Observatoire de Paris Meudon Nancy.
Observatoire de l'Outre-mer.
Observatoire de Saint-Véran.
Observatoire de la santé de la Martinique.
Observatoire des Pises.
Observatoire de la qualité de l'alimentation.
Observatoire géodésique de Tahiti.
Observatoire économique de l'achat public.
Observatoire de l'IPGP.
Observatoire des élections en Europe.
Observatoire Léon Tesserank de Bord, SETIM.
Observatoire national de la précarité énergétique.
Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer.
Observatoire de l'égalité femmes-hommes.
Observatoire océanologique de Roscoff.
Observatoire national de la fin de vie.
Observatoire océanologique de Banyuls.
Observatoire interministériel de l'accessibilité de la conception universelle vidéo.
Observatoire SMALC des risques juridiques de la vie.
Observatoire des risques de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail.
Observatoire régional du tourisme de Bourgogne-Franche-Comté.
Observatoire européen des forêts à Nancy.
Observatoire faunistique de Franche-Comté.
Observatoire zonal interministériel de la sécurité des systèmes d'information.
Observatoire de la laïcité.
Observatoire national des véloroutes et des voies vertes.
Observatoire national de la délinquance dans les transports.
Observatoire national du comportement canin.
Observatoire de l'économie et des territoires de la Touraine.
Un observatoire du territoire européen par Claude Grasslund.
Observatoire de la mobilité des personnes.
Observatoire de la modernisation de l'État.
Observatoire de la récidive et de la désistance.
Observatoire des trafics.
Observatoire régional des risques.
Observatoire des retards du transport aérien.
Observatoire de l'immigration à la Mayotte.
Observatoire du logement de la Marne.
Observatoire de l'enseignement technique agricole.
Observatoire des télécoms.
Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Observatoire de la laïcité, Banque de France, Observatoire de la laïcité, la désistance, Observatoire géomatique,
Observatoire de l'inclusion bancaire,
Observatoire de l'enfance,
Observatoire
en danger,
des territoires,
Observatoire de la Observatoire santé des vétérans,
national du
Observatoire des PME
Observatoire
et
des
services
nationales.
En ligne dédiés aux PME,
Observatoire de,
Observatoire de l'eau, Vendée, Observatoire,
Observatoire
de
la santé du travail
de
France,
Observatoire de l'eau,
Observatoire régional de la
biodiversité, Observatoire départemental de l'eau, 1, l'Observatoire de Calais, l'eau en Bretagne, l'Observatoire Aquitaine, de l'eau à Paris, l'Observatoire régional des déchets
l'Observatoire
en Bretagne,
de la
l'Observatoire
énergie,
du littoral, l'Observatoire des territoires, l'Observatoire des bâtiments de l'achat public, l'Observatoire de l'environnement de sonore, de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, l'Observatoire national des agendas 21 locaux et des pratiques territoriales de développement durable, l'Observatoire des risques juridiques et des collectivités des professions de santé, l'Observatoire des micro- et nanotechnologies, l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport, l'Observatoire régional de l'énergie
national des véloroutes et
l'Observatoire des prix et des revenus,
l'Observatoire annuel de l'aviation,
l'Observatoire de la démocratie sur Internet en Ile-de-France, l'Observatoire local de la sécurité et de la tranquillité publique, l'Observatoire des métiers et des qualifications, l'Observatoire des délais de paiement, l'Observatoire des mondes numériques,
l'Observatoire de la qualité de
l'air, l'Observatoire des sciences de l'univers, l'Observatoire de la fonction publique d'Albâtre, de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Observatoire des territoires de projets en Midi-Pyrénées, l'Observatoire de la décentralisation, l'Observatoire de l'Internet haut débit, l'Observatoire des territoires numériques, l'Observatoire des recommandations des activités d'établissements de santé, l'Observatoire national des réseaux de santé, l'Observatoire du bruit à Paris,
l'Observatoire régional
du bruit en Ile-de-France, l'Observatoire de Cartus des espaces publics,
l'Observatoire des violences en
Ile-de-France, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, l'Observatoire social du transport routier de marchandises et de voyageurs en Auvergne,
l'Observatoire social de la défense,
l'Observatoire des prix des biocarburants, l'Observatoire régional des déchets et d'Île-de-France, l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique,
l'Observatoire régional de la
l'Observatoire des marchés d'électricité et du gaz,
l'Observatoire national de la formation, la recherche
des pratiques de l'évaluation des risques sanitaires sur les
déchets, l'Observatoire des prix et des revenus,
l'Observatoire des études classiques en Europe, l'Observatoire des politiques culturelles, l'Observatoire des territoires, l'Observatoire régional de la santé,
l'Observatoire de la sécurité,
l'Observatoire des risques médicaux, l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, l'Observatoire de l'enseignement agricole, l'Observatoire national de la sécurité routière, l'Observatoire des qualités de qualification,
l'Observatoire
des pratiques pédagogiques et entrepreneuriales,
l'Observatoire de la santé des
militaires, l'Observatoire des DOB
et des services en ligne dédiés aux
PME, l'Observatoire
des indicateurs
stratégiques sur les langues et
l'Observatoire de l'eau et des pays de
l'Inde,
l'Observatoire de l'eau.
Voilà, c'est le signal. Alors, la pièce sonore continue, Célio. Alors déjà, je voudrais dire que quand même, c'est un peu une vacherie que vous lui avez faite à Samuel de prononcer le mot observatoire aussi souvent, alors qu'il a du mal à le prononcer.
Quoi. Ouais, on est un peu pervers, on aime ça. En fait. C'est dans le collectif, des fois, il faut se titiller. Quoi.
Alors, cette énumération, elle est assez hypnotique, mais en même temps presque inquiétante dans ce qu'elle provoque d'étouffement et de questions. Est-ce que c'est un effet voulu ou est-ce que c'est juste une première matière posée comme ça dans cette performance pour évoquer le projet, simplement pour l'amorcer en quelque sorte, Célio?
Oui, c'est clairement pour amorcer le projet. C'est une forme d'expérimentation et c'est un travail de recherche très simple à ce niveau-là, mais puisque notre projet s'intitule Observatoire, on allait regarder ce que c'est qu'un observatoire.
Qu'est-ce que ça veut dire
Qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Et il se trouve qu'il y a énormément de comités qui sont des observatoires. Bon, nous, on n'a rien contre ça. Hein. C'est pas du tout pour dire qu'il y en a trop, je sais pas quoi. Des fois, c'est amusant, c'est tout.
Donc, ils sont assez drôles.
On s'est servi de ça, quoi.
Ouais, ouais. Alors, on parlait tout à l'heure, peut-être on va expliciter un petit peu plus ce projet. Donc, à partir d'un même point d'observation, vous allez être trois et vous allez travailler comment?
Alors ça, on est toujours en cours, on essaye, ouais. On commence. Vraiment, le point de départ, c'était de se demander ce qui se passe quand on est dehors, dans un espace public, par exemple, assis sur un banc, si possible, pas dans un endroit ultra familier, on sort, on regarde ce qui se passe, on est un peu paumé, quoi. Au début, on est entouré de sons, de mouvements, de gens qui font des choses et d'autres, on ne comprend pas trop et on note tout ça dans une espèce de flou et de bordel. Et progressivement, on s'attache sur certaines choses, on commence un petit peu à comprendre ce qui se passe et ensuite, on s'invente des histoires. Et ce qui se passe alors, pour nous, c'est qu'il y a à la fois une présence sur le moment. Il y a aussi ce qu'on voit, on le rattache à des souvenirs, donc ça nous amène un petit peu vers l'arrière. Et également, on imagine la vie des gens et on se projette aussi sur notre avenir. Donc il y a une forme de tripartition temporelle. En tout cas, là, c'est un point de départ provisoire. Ensuite, on va probablement se balader dans les temporalités. Et puis l'autre point, c'est aussi un rapport, on va dire, documentaire-fiction, où quand on est sur place, on a l'impression d'être dans une approche documentaire. En fait, elle n'est pas forcément si documentaire que ça, mais en tout cas, on note telle ou telle chose. Et qu'est-ce qu'on retient des faits et de ce qui se passe? Et ce dont on se souvient, ou ce qu'on imagine, on va être plus dans le récit ou dans la fiction. Donc il va y avoir des modes d'écriture qui vont être différents en fonction du moment où on se place par rapport au phénomène d'observation.
Oui, oui. Alors on va tenter de joindre Samuel Lider. En fait, on l'a joint déjà à Londres. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Tu nous entends?
Oui, Benoît, un petit village à côté de Londres. Oui.
Ah, bon, bah, écoute, nous on est à Marseille, à La Friche, dans les studios de Radio Grenouille, mais on est avec toi aussi. Tu as entendu ce qu'a dit Célio, cette manière de présenter le projet.
Et, oui.
Voilà, et comment toi tu trouves ta place dans ce collectif et dans ce projet? Il a en particulier parlé des souvenirs et des émotions. J'ai l'impression que c'est plus vers ça que toi tu t'orientes, ou est-ce que je me trompe?
Non, pas du tout. Oui, c'est exactement ça. En fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est que dans ce projet, on a trois points de vue et trois manières d'observer qui sont dans une sorte de relation un peu dialectique. Et je pense que ça fait partie du projet, l'expérience du lecteur.
Trialectique.
trialectique, oui. Et donc, le point de départ pour moi, c'était vraiment, oui, une expérience assez personnelle, intérieure. Plutôt où j'étais, je me suis retrouvé dans une situation un peu solipsiste même. J'étais dans un lit d'hôpital. À l'hôpital Clerval à Marseille,
ouais,
je venais de me faire opérer du dos. J'étais très faible et j'avais jamais eu une expérience comme ça où j'étais presque paralysé. Et je suis devenu fasciné par une tour, je ne savais pas ce que c'était, que je pouvais voir en haut de la colline par la fenêtre. Et je demandais à tout le monde ce que c'était. Et personne ne pouvait me dire. Et puis je me suis dit, un jour je vais grimper cette colline et je vais voir la tour. Et puis voici, quelques mois plus tard, on a ce projet. Oui.
Et juste une remarque par rapport au son qu'on a écouté tout à l'heure, c'était un son qui a été en grande partie fait justement dans cette tour vers laquelle on a grimpé ensemble.
D'accord. Vous avez enregistré les voix dans cette tour?
Oui, on a enregistré les voix dans cette tour et il y a un certain nombre de bruits de fond. Pas les trains, parce que la tour est quand même en haut d'une colline, donc les trains ne grimpent pas sur la colline. Mais sinon, une bonne partie de la matière sonore pour le son qu'on a écouté tout à l'heure vient d'une expédition là-haut, au-dessus de Super Rouvière.
Du coup, se confronter à la réalité de la tour, Samuel, une fois sorti de ton lit d'hôpital et revenu sur place plusieurs mois après, ça donne quoi? Ça provoque quoi?
C'était une expérience. C'est assez émouvant, je veux dire. Parce que, bon, quand j'étais dans l'hôpital, c'était une sorte d'humiliation. Dans ce que j'ai écrit, je parle un peu de comment. Je subis les regards des médecins. Je suis tout nu. Je suis un peu. Le mot anglais pour moi c'est abjection. J'étais abject, mais c'est pas vraiment le mot en français. C'est une sorte d'humiliation.
Oui.
Et de ce point de départ, ça a ouvert en moi une sorte de vulnérabilité et un désir de faire une sorte de connexion avec les autres. Donc, pas seulement des autres, mais avec le monde qui m'entourait. Et le monde qui m'entoure, c'est quelque part, c'est très lié à l'histoire de ce monde. Et donc, une fascination pour moi, c'est qu'est-ce que c'était cette petite tour que je voyais. C'était et donc le désir de monter cette tour, c'est aussi un désir de le comprendre, de voir à partir de ce point de vue ma situation.
Ouais.
Qui était dans lequel j'étais un peu englouti.
Si je comprends bien, on passe quand même assez rapidement de la place de l'observation, de l'observateur, à celui qui cherche à comprendre, qui va aller peut-être sur place, aller un petit peu plus loin et va pas se contenter d'observer, mais va essayer de comprendre ou d'interpréter ce qu'il observe, la question de l'interprétation. Alors là, déjà, on a un exemple finalement de ce double point de vue, puisque Célio nous a raconté cette histoire de tour tout à l'heure. Tu l'as raconté à nouveau de ton point de vue de ton lit d'hôpital, ce qui est déjà un petit peu différent, et en y ajoutant cette sorte de presque quête de comprendre ce que c'est. Du coup, je me tourne aussi vers Camille, peut-être pour voir comment est-ce que ça a été perçu, cette montée vers cette tour, et dans le projet, comment est-ce que, pour toi, quelle place a finalement ce lieu physique très réel, très concret?
Moi, je me souviens que quand on est monté en bas, on a croisé une femme à qui on a demandé s'il y avait vraiment une tour là-haut, et ce que c'était cette tour, et elle s'est mise à parler, et elle évoquait toutes les minutes quelque chose de différent. D'abord, c'était une tour de garde pour vérifier qu'il n'y avait pas de déplacement de population pendant la peste. Ensuite, c'était une tour pour garder les moutons. Ensuite, elle nous a parlé des Allemands qui étaient venus pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça passait. Du coup, tout ça, et puis les récits de Samuel, la vision de Célio, pour moi, ça crée un peu des fantasmes, des rêveries. C'est ça que j'essaye d'intégrer.
Ouais. Et des images?
Des images aussi, oui. On en a vu une pendant la performance de Célio hier.
Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'entendre le texte. Alors, Samuel, à distance, c'est un peu compliqué de lire, donc je propose de prendre ta voix, si tu acceptes, pour lire les passages que tu as écrits et que tu as évoqués tout à l'heure. Voilà, peut-être qu'on reviendra vers toi tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore le temps d'avoir un échange avec toi. C'est possible. Reste près de nous, reste en ligne.
Reste près de nous, Sam.
J'essaye.
Voilà, et voilà, je vous propose qu'on écoute à présent un extrait de ce texte à trois voix qui donnera peut-être un peu plus la préfiguration de ce que va être le résultat final sous forme de livre. Alors là, on n'a pas le multimédia avec nous, c'est que du texte, mais on a quand même le son avec la radio. Et puis on reviendra dessus peut-être par la suite. Donc trois voix qui, au début, ne se superposent pas, mais qui, un petit peu plus loin, on n'ira pas jusque-là dans la lecture, mais un petit peu plus loin, on arrive aussi à s'interpénétrer un peu à la manière de ce qu'on a entendu dans la pièce sonore. Donc, je vais commencer, puisque c'est Samuel, normalement, qui commence ce texte, et puis après, je vous laisserai poursuivre. L'Observatoire. Depuis l'Observatoire, sur la colline à Marseille, si tu regardais là, en bas, tu pourrais le voir, couché sur un lit électrique, dans sa chambre d'hôpital au troisième étage. Son visage est tourné vers le côté, vers toi. Il regarde, à travers la fenêtre, la colline aride avec ses fissures et les petits buissons qui s'y accrochent, et l'Observatoire tout en haut, comme une dent solitaire. Seuls ses pieds ressortent sous le drap blanc de l'hôpital. Le reste de son corps est plat, étendu, mou. Il est en train de t'imaginer et d'imaginer ce que tu vois.
Noir, 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 calme, colère. Je ne distingue rien que du noir. Et pourtant, je suis sûr que l'on peut voir plus que cette matière. Noir, 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 calme, tremblement de mon corps. Voyons, arrête-toi, pas besoin de colère. Mais je ne vois aucun mouvement, aucune trace de l'homme, cela m'effraie. Noir, 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 regarde encore. Noir, 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 calme, repos. Noir, noir, noir. Et si on avait seulement appris à voir le noir comme l'obscurité?
Au début, je ne vois rien, je ne peux rien voir. Je sais où je suis, je connais cet endroit, mais je ne vois rien, je n'entends rien, je ne perçois rien.
C'est au musée à ce moment-là que c'est arrivé. Elle observait, elle était ailleurs, dans ce tableau si noir, et c'est arrivé. Là, à cet instant précis, des doigts inconnus ont effleuré son ventre. Elle s'est tout de suite retournée et n'a vu que des silhouettes, de dos. Dans le silence matinal de la salle, elle s'est sentie étouffée. À pas pressé mais discret, elle est sortie. De l'air à boire. Elle va s'étouffer. Dehors, il fait beau. La lumière est claire. Elle s'assoit doucement sur un banc. Son ventre lui fait mal. Allez, de l'air. Trop tard, dans sa tête, c'est sans matière, sans odeur, sans profondeur. C'est noir et ça y est, ça recommence. Elle a tout oublié.
Je me sens là et en même temps très loin, dans le temps comme dans l'espace. Comme si la personne présente ici et ressentant cela, ce n'était pas moi, ni quelqu'un d'autre, ni un autre moi, avant, ailleurs, différemment. Je n'ai plus la sensation d'un moi. Il n'y a plus rien qui pourrait me faire croire qu'il y a quelque chose de complet, structuré, défini, délimité, et que ça m'est propre et particulier.
La porte s'ouvre et se ferme automatiquement. La chaise en métal lui glace les fesses, elle se relève. Au fond de ses yeux, quelque chose tremble comme si son corps avait changé de place. Si ça continue, elle aura une migraine. Et quand elle a la migraine, les couleurs s'effacent les unes après les autres. C'est comme un signe. Si elle va vers le noir, elle sera soulagée. « Docteur, docteur, elle est là, la fille !» Elle dit que c'est une urgence, que ça recommence. Elle insiste. Elle ne se souvient pas. Elle ne se souvient plus. C'est encore arrivé aujourd'hui un choc. « Docteur, vous pourriez lui parler ?» L'interné, ce serait pire, elle oublierait tout.
Je ne comprends rien à ce qui se passe là, effectivement. Je ne ressens ma présence en ce lieu qu'à travers les souvenirs que j'en ai. Ils sont tellement marquants qu'il n'y a pas la place pour autre chose. Car même s'il s'en produit d'autres choses, et s'il s'en produit à chaque instant, tout n'est que prétexte à faire ressurgir des nuages de souvenirs, à réactiver des images dans ma mémoire et à imposer ces formes vaporeuses à ma perception.
Écoutez, mademoiselle, vous avez visiblement une construction mentale en puzzle et les pièces se mélangent. Je ne sais plus quoi vous proposer. Nous avons déjà essayé de parler les dernières fois, ça n'a pas marché. Donnez-vous 24 heures et si rien ne revient, nous en reparlerons. Voyons, mademoiselle, ne vous mettez pas dans cet état. Nous avons déjà vécu ça ensemble. Vous n'êtes ni malade ni folle. Regardez les gens ici. Cet homme, là-bas, n'a peut-être jamais eu l'idée que la Terre est peuplée de millions d'individus, car il n'a toujours vu que lui. Celui-ci est incapable de mettre des mots sur les choses, alors il ne peut pas communiquer. Et celui-là, malgré tous ses efforts, ne cesse de revenir au même point, un mot « grusps ». Alors, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, ce mot est sa limite. Si votre esprit vous joue des tours, vous devez jouer avec lui. Surtout, ne vous effrayez pas.
Il y a une absence de moi, par un excès de tout, de trop. Un chaos indescriptible et impossible à saisir, à appréhender, dans lequel ma personnalité s'est dissoute. L'idée même que je puisse avoir un moi me semble aujourd'hui absurde et illusoire. Comment pourrais-je exister indépendamment du monde? Quelles seraient mes limites? En ce moment, je n'ai pas l'impression d'être dans le monde, mais plutôt que le monde est à l'intérieur de moi. Et il n'y a pas de moi pour autant. Je ne suis pas un être, je suis un regard. J'observe.
Juste après l'intervention, il avait été paralysé par l'anesthésie. Il avait eu froid et peur. Il ne sentait pas ses jambes et ses parties génitales. Il avait tiré sur son sexe insensible comme sur un cordon d'urgence. Il avait souhaité que sa mère soit là. Sa présence aurait été une catastrophe, il le savait, mais il la voulait. Même les illusions insensées de sa mère, son narcissisme puant, ses yeux bleus sauvages et son état permanent de panique et de paranoïa l'auraient rassuré.
Ça ne vient pas tout de suite. Ça prend du temps et ça ne dure pas forcément. Parfois, il faut recommencer. Il faut toujours recommencer. Même quand on pense l'avoir, quand on se dit « cette fois c'est la bonne, plus besoin de m'en faire », ça peut aussi bien disparaître, comme les autres fois.
Une jolie infirmière, cheveux noirs, coupés au carré, grands yeux marrons, l'avait fait tourner sur le dos pour le glisser sur le lit roulant. Il voyait son sexe qui pendait sur le côté, souple, inutile. Il était nu, elle le regardait sans rien dire.
« Ça m'est arrivé, ça m'arrive et ça m'arrivera, quand ça va et quand ça vient. Pourtant je pense toujours que ça va durer, je m'en émerveille. » Alors que je sais que ça va s'arrêter, forcément. Ça peut tenir un peu, mais pas éternellement.
Voilà, donc c'était un extrait de ce texte, L'Observatoire, donc écrit par Camille Dechenet, Célio Paillard et Samuel Lider. Vous avez lu chacun les parties que vous avez écrites?
Non.
Non.
Pas du tout.
Pas du tout, oui, moi non plus, parce que j'ai lu la version de Samuel, la partie de Samuel.
On a vécu une forme d'expérience intérieure dans le corps et l'esprit de l'autre.
D'échange de sexe.
Alors, ce texte, en revanche, tel qu'il est là donné dans la revue, pour vous, ça préfigure plutôt ce que va donner le projet, en y ajoutant ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du son, des images, la vidéo, d'autres matériaux, mais c'est à partir d'un texte qui va plus ou moins s'élaborer comme ça, qui va se répondre, qui va se construire à plusieurs voix.
Ouais, dans un certain sens, il y a une forme de... Bah, toujours pareil, hein, d'expérimentation, de tentative, d'essai, de travail en commun. Et puis je vais encore faire mon universitaire et reparler de Barthes.
J'aime bien Barthes, Roland, c'est cool.
Barthes, à un moment, il parlait du prétexte, mais je disais tout à l'heure que pour lui, texte, c'était œuvre, et il met un T majuscule à texte, et prétexte, c'est... avec un T majuscule à texte aussi. Donc là, on est dans l'ordre d'un prétexte. C'est aussi lancer un mouvement. C'est à ça que ça nous a servi, la revue. C'était de se dire, puisqu'on doit proposer quelque chose pour la revue, et c'est super d'avoir cette première forme, bah, il faut que ça soit un moyen de lancer la dynamique pour ce travail sur l'observatoire.
Ouais, c'est une forme de prologue.
Oui. Peut-être qu'on peut écouter Samuel aussi, s'il est toujours en ligne, sur l'écriture de ce texte. Oui, Samuel.
Oui, oui, ben je suis d'accord avec les autres. Là, c'est, oui, c'était le mot prologue, c'est exactement ce que je pense. C'était une sorte de d'expérimentation où on s'est mis en accord et à la fois en désaccord. Je pense que c'est important qu'il y ait une différence entre nos voix. En même temps, il y a une sorte de convergence dans les perspectives. Et là, après, on va trouver des formes, d'autres formes pour les mettre ensemble, faire des juxtapositions. Et je pense que la forme numérique, c'est vraiment idéal pour une manière non linéaire de raconter une histoire, de mettre les choses ensemble d'une manière peut-être plus démocratique, moins hiérarchisée.
Et aussi dans le travail de ce texte, il y avait quelque chose d'intéressant. Non, là, tu disais ça, mettre les choses ensemble. En fait, il y avait un travail de composition. Enfin, c'est l'étymologie du mot, composer, ça veut dire poser des choses ensemble. Et c'est ça aussi qui s'est passé. Donc, on a écrit nos textes, chacun de nos côtés. On se les a partagés, on a corrigé certaines choses. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était de redécouper, en fait, les textes et et en les mettant ensemble, alors qu'on n'avait pas forcément... l'idée que ça pourrait donner ce genre de sens, mais les textes des uns et des autres se sont mis à sonner différemment, placés ensemble. Et c'est ça qui est, je trouve, intéressant dans cette expérience.
Alors, on va écouter tout à l'heure une autre composition, justement, puisque avec la revue papier radiophonique, on demande aussi aux auteurs un son ou une musique dans ce questionnaire qui est une sorte d'autoportrait intégré dans la revue. Donc, on va voir aussi cette idée de composition. Mais peut-être avant, je voudrais profiter, et ça sera peut-être la dernière intervention de Samuel, de ta présence encore à distance, Samuel, pour aborder une autre question de ce petit autoportrait ludique qu'on propose dans la revue. Puisque tu es à distance, justement, ça me fait penser à ça, à la question du lieu. Une des questions, c'est de vous interroger sur un espace que vous choisissez, qui est nommé dans la revue un holoé d'après un mot créé par Anne Savelli, qui est une de nos anciennes résidentes, une auteure qui est publiée chez différents éditeurs, et dans un livre qui s'appelle « Des holoés », publié chez Défiction, qui est un éditeur numérique en 2011, qui est depuis, ce mot a été repris par de nombreux auteurs et lecteurs, parle de holoé, espace élastique où lire ou écrire. Et voilà, on vous interroge là-dessus, de donner un holoé, donc un espace où lire ou écrire qui pour vous est important. Et Samuel, je vais lire ce que tu as écrit et du coup je vais t'interroger peut-être par la suite sur cet espace-là. Alors Samuel répond à cette question en disant: dans le métro à New York, avec les bruits métalliques autour de moi, les annonces monotones du conducteur, le bourdonnement continuel des autres, l'odeur de sueur et de chewing-gum. La stimulation me permet de m'oublier moi-même, d'être ailleurs qu'ici. Voilà, ça c'est la réponse de Samuel. Si tu es encore en ligne, Samuel, tu peux peut-être commenter ça, puisque finalement ça correspond pas mal à ce qu'on a déjà entendu, ces bruits de train, ces espaces un peu particuliers.
Oui, oui. Bah, je trouve ça, oui, en fait, j'écris le mieux quand il y a beaucoup de stimulation autour de moi. Donc, beaucoup dans les bibliothèques, mais dans les cafés, et même pendant que je marche, dans des situations où je suis entouré de distractions. Et même si j'écris quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui m'entoure, ça me permet de d'être dans une sorte de mode mental où je suis ailleurs.
Ouais.
Je suis dans une sorte de mode de fiction.
Ouais.
Et voilà, à New York, j'ai passé quelques années c'était un endroit où il y avait tellement de stimulation que des fois c'était trop, on était surstimulé, mais ça me permettait justement de surtout quand j'étais en transit d'une place à une autre, c'était souvent des moments d'inspiration.
Oui.
Voilà.
Avec une, pardon, avec
il y a du vent et ici il y a quelque chose qui vient de tomber.
Bon. Alors peut-être qu'on va le voilà, il y a la tempête à Londres. On t'entend tousser de temps en temps, donc c'est en plus tu es malade. Peut-être que voilà. En tout cas, merci beaucoup Samuel. On va en profiter pour que toi tu puisses sauver ta maison avant qu'elle soit emportée par les vents.
Bon courage Sam.
Il y a aussi le bébé qui vient de se réveiller.
Ah okay. Parfait. On est dans le bon timing.
Ok.
Merci beaucoup. Merci. À bientôt Samuel. Alors, on va poursuivre cette question des espaces élastiques où lire ou écrire avec, du coup, la réponse de Camille. Camille,
oui.
Est-ce que c'est moi qui lis? Est-ce que
non,
c'est toi qui
lis?
Voilà, vas-y.
Dans un port au bord du lac de Côme, en attendant le bateau qui nous conduit aux îles, avec ma grand-mère silencieuse, droite et tirée à quatre épingles, assise à côté de moi, qui me fait parfois une remarque sur ce qu'elle faisait à mon âge. Alors, moi, je me rends compte que j'ai mal lu... la définition du mot holoé. Je pensais que c'était
non, mais
seulement
on a le droit de l'interpréter.
Un espace élastique ou lire. J'avais pas vu que c'était aussi
ou lire,
pour écrire.
Ou écrire. Le ou peut s'interpréter aussi comme une alternance possible.
Mais moi, ce souvenir me reste déjà parce que ma grand-mère m'en parle tout le temps. Elle me dit: mais qu'est-ce que tu faisais à ton âge à lire Kafka au bord de l'eau alors qu'on était dans un endroit merveilleux? Et je me souviens justement que je lisais Kafka, La Métamorphose, et que ma grand-mère, je la regardais, et c'était le lieu de toutes les métamorphoses dans ce paysage qui est absolument sublime, très harmonieux. Là, je la voyais, je me disais « wow ».
Je voulais aborder la question de la porosité avec l'univers autour, que finalement Samuel évoque. Il dit voilà, tous ces bruits, tous ces super stimulations tout autour me permettent de m'oublier moi-même, de me concentrer peut-être sur autre chose. Et en même temps, c'est là, c'est quand même présent et il doit y avoir une porosité avec l'écriture. Et ce que tu évoques, c'est finalement ça, parce que tu dis à la fois que tu as le souvenir de cette lecture très forte de Kafka, de La Métamorphose, et en même temps, cette image du lac de Côme et la beauté autour t'a marqué
oui,
à vie.
Après, c'est très calme le lac de Côme, c'est pas le métro new-yorkais.
Oui, c'est sûr.
Oui, toi, t'es plutôt, préférer un lieu d'écriture où t'es complètement isolé du reste.
Moi, je suis à l'inverse de Samuel. J'écris le matin quand il est extrêmement tôt et qu'il n'y a personne qui vit autour de moi, que j'ai l'impression de voler du temps à la planète.
Alors, on va, à propos de planète, on va continuer à courir la planète et à changer de lieu géographique de manière très forte encore avec toi, Célio.
Donc, peut-être juste avant que tu ouais. dises ça, je voulais...
C'est toi qui vas le dire, de toute façon.
Ah oui, c'est moi qui vais le dire, ouais,
vas-y, vas-y.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Sam, alors j'espère qu'il... Je vais lui envoyer l'émission de radio après, qu'il puisse écouter ce compliment que je lui fais. Mais ça me rappelle clairement des moments où c'est un peu indissociable, d'ailleurs, enfin, lire et écrire, des situations, mais qui sont aussi proches des situations d'observation, où on peut s'oublier dans la densité de monde et d'événements. Et pour moi, c'est un truc comme si on était soit en train de regarder un film, donc on voit tout ce qui se passe autour de nous, on regarde un film, on se sent extérieur à ce film-là, soit tout d'un coup, on peut rentrer à l'intérieur du film. Et je trouve qu'il peut y avoir des choses comme ça aussi, des fois, dans de l'écriture, dans du bruit. Quoi. En tout cas, moi, quand j'écris, quand je suis dans les cafés, quand ça m'arrive, j'adore ce truc-là de pouvoir être dans ce que les gens font et puis après, reconcentrer sur moi-même, ce mouvement-là. Et cool, quoi.
C'est le jeu d'aller-retour qui est intéressant, peut-être, entre ces deux univers.
Ouais, j'aime bien ça. Alors, allez, c'est bon, on s'en va. Au Vietnam, quelque part sur la côte, dans une ville au bout d'une petite plaine, entre deux petites montagnes se jetant dans la mer, protégée par des rizières et des champs où paissent des buffles, pas loin de la plage peuplée des bateaux multicolores, une cabane avec vue sur la mer. Ne dites pas que c'est un cliché, ce n'est qu'en partie un fantasme.
Alors là, on est parti plutôt dans le... Bon, en partie un fantasme, quelque chose de plus imaginaire en tout cas, qui va être aussi ce projet. C'est-à-dire, vous n'allez pas observer que le réel, mais aussi l'imaginaire.
Ouais, je peux raconter juste une micro...
Vas-y.
Il faut aller vite, je sais, mais...
Non,
c'était...
Tout va bien.
Je suis allé pas mal de fois au Vietnam, j'aime beaucoup ce pays. Et à un moment, je fais un long trajet de bus et je longe la côte vietnamienne. Et les paysages sont vraiment magnifiques. Il y a des rivières qui se jettent dans la mer. Et puis on voit les rizières. Il y a des montagnes qui se jettent dans la mer, pardon. Il y a des rizières, enfin, tout ce que je décris comme ça. Et je me suis dit, à un moment, je vais retourner au Vietnam et je vais me trouver un petit village de pêcheurs et me trouver une cabane. C'est vraiment la caricature de l'écrivain dans sa cabane en train de regarder la mer. Et ce qui était juste drôle, c'est que j'ai essayé de trouver ça. Et sauf que j'avais genre 300 km de côte. Alors je prenais le bus et j'essayais de... Je disais, non, je sais pas où je m'arrête, mais voilà, je prends le billet jusqu'à là. Et après, je reprenais un billet en disant, non, mais je sais pas où je m'arrête et tout. Au bout d'un certain temps, le conducteur du bus était un peu énervé. Il m'a dit, non, mais tu choisis une ville, quoi. Et là, je me suis trouvé une ville et je me suis arrêté. C'était pas du tout cet endroit arrivé là. Mais c'est une ville aussi où j'ai vécu plein de choses assez importantes pour moi et qui m'a marqué dans ma façon d'observer, quoi.
Sur la route 550. 13 septembre. Entre Taos et Durango.
The idea was to take at Durango, Colorado, the old train to Silverton.
Voilà, c'est le début uniquement d'un extrait de cette création sonore radiophonique de Luc Ferrari qui s'appelle Far West News, épisode numéro 1, qu'on entend encore un tout petit peu en fond, qui mélange documentaire et musique et qui dissout les frontières dans un mouvement sans entrave, dites-vous, parce que voilà, c'est le son que vous avez, alors je ne sais pas si c'est l'un de vous ou tous les trois qui l'avait retenu,
moi.
C'est toi.
C'est juste moi, je l'ai imposé aux autres.
bravo pour le collectif. Bon, c'est vrai que c'est assez proche de ce qu'on a entendu tout à l'heure et ça tombait plutôt bien aussi avec cet épisode que tu racontais sur la route au Vietnam. Juste un petit mot très rapide pour justement le choix de ce son, qui est à la fois du son et de la musique, justement, c'est intéressant.
Ouais, en fait, c'est à la fois le choix du son, parce que ça mélange plein de choses, et c'est surtout le choix de Luc Ferrari comme quelqu'un qui a tracé un chemin vraiment original, enfin, qui se faisait plaisir, qui se posait pas spécialement de questions à savoir s'il allait faire de l'électroacoustique, de la création radiophonique, qui avait juste envie de faire des choses et qui a... ouais, c'est ça, enfin, je sais pas comment dire autrement, quoi. Qui a fait son truc, quoi, qui s'est pas pris la tête à savoir est-ce que c'est telle ou telle catégorie. Oui. Et nous, dans cette idée-là du travail sur l'observatoire, on va mélanger plein de choses différentes.
Oui. Vous posez pas la question de la forme, ou alors la forme en elle-même, elle est d'emblée décidée comme étant très souple, très plastique.
Ouais, en fait, je trouve c'est lié avec le collectif, c'est plutôt une question de pratique, quoi. C'est comment on fait ensemble pour créer quelque chose.
Eh bien, c'est parfait. Eh bien, on va voir ce que ça va donner d'ici quelques mois, puisque le projet ne fait que commencer. Merci à tous les deux, Camille Dechesnay et Célio Paillard. Merci à Samuel Lider, qui est un petit peu loin, mais qui était avec nous quand même, pour ce projet, l'Observatoire, que vous avez commenté là. La prochaine fois, on aura en résidence, et donc du coup, pour cette émission radiophonique, Joseph Safieddine, qui est scénariste de bande dessinée franco-libanais. Merci beaucoup, à très bientôt. La première chose que je peux vous dire est une revue, radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mila Jarre. Production, Radio Grenouille et La Marelle. Présentation, Pascal Jourdana. Voix, Manon et Violette. Suivi de production, Fanny Pomared, La Marelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille. À la technique, Sébastien Gély.
Otros accessos a lo no cotidiano, simplemente para...
La Marelle est une structure hébergée à la Friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.